cours de ces quelques jours, on puisse déployer tous leurs équipements.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. On va faire un tour ensemble sur les grands titres de l'actualité.
Recul immédiat, l'émission qui prend de la distance sur l'actualité et l'information. Avec Mehdi et Julien. Sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Recul immédiat, la nouvelle émission consacrée au traitement de l'information sur Marmite FM 88.4. L'idée est de donner quelques pistes de lecture des médias pour mieux comprendre leur fonctionnement et réfléchir à nos propres pratiques d'information. Et pour nous guider dans nos réflexions critiques, Mehdi Litim est avec moi, le fondateur du Trapiblog, qu'on entend aussi régulièrement sur notre antenne pour parler d'économie notamment. Bonjour Mehdi.
Bonjour Julien.
Alors, on se retrouve aujourd'hui, Mehdi, pour la deuxième partie de notre émission consacrée au fonctionnement de la presse en France. On s'est appuyé sur quatre grands quotidiens nationaux, L'Humanité, Libération, Le Monde et Le Figaro. On a passé en revue leurs lignes éditoriales respectives, mais il faut maintenant, bien sûr, prendre un peu de temps pour parler du modèle économique de ces grands quotidiens et on va notamment parler des propriétaires de ces journaux. Alors, qui possède quoi ? Alors déjà, Le Monde, qui est détenu à 75% par des industriels et des financiers, donc Daniel Křetínský, grand industriel tchèque dans le secteur de l'énergie, le banquier d'affaires Mathieu Pigas et le fondateur et le patron de Free, Xavier Niel. Alors pour le Figaro, c'est la famille Dassault, donc c'est de l'aéronautique, des avions militaires et des avions d'affaires. Et pour Libération, c'est Altice, c'est-à-dire Patrick Drahi, qui possède SFR, BFM et RMC. Alors Mehdi, pourquoi ces milliardaires achètent des journaux ?
Alors des milliardaires qui achètent des journaux, ça n'existe pas qu'en France. Donc c'est un système qui existe dans tous les pays occidentaux, à économie de marché. La presse, évidemment, ça a un impact sur un pays. Soit directement par rapport en fait, aux informations qui sont transmises aux électeurs, aux citoyens, soit de manière un peu plus indirecte par rapport aux informations qui sont transmises au personnel politique. En gros, on pourrait très bien avoir en fait des médias qui vont mettre plus l'accent sur les qualités ou sur les défauts de certaines personnalités politiques, même si ça impacte pas nécessairement les électeurs ou les citoyens. Le personnel politique peut être ultra sensible en fait à ce genre de risque, ou alors à ce genre de cadeau bonus qui flatte l'ego. Et ce qu'on remarque dans les noms que tu as donnés, c'est qu'on a quand même beaucoup d'acteurs industriels, notamment, qui ont besoin de l'État pour exister. Quand on parle de Dassault, historiquement, c'est le fournisseur d'une partie de l'armement de l'armée française. Et puis quand on parle de Free ou quand on parle de SFR, on parle pas, nous, de Bouygues, qui est aussi dans les télécoms, mais on sait qu'il possède des chaînes de télé. On a aussi des industriels qui ont besoin en fait, de l'État pour obtenir des licences, pour pouvoir continuer d'exister. Donc du coup, il y a un intérêt bien compris pour certains industriels en fait, à posséder des médias, que ce soit en France ou à l'étranger.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler comment la presse écrite fait pour gagner de l'argent ?
Alors, la presse écrite, pendant un certain nombre d'années, notamment quand on est passé de la version tout papier à la version numérique électronique, avait tendance à perdre de l'argent. C'est-à-dire que dans les médias, on était un petit peu perdus, on ne savait pas quel modèle économique développer, et les lecteurs aussi étaient un peu perdus, et notamment, il y en avait beaucoup qui s'informaient gratuitement sur Internet. Et donc, il y a eu une époque où les médias assez largement perdaient de l'argent. Et c'est à ce moment-là que les industriels sont venus les aider en les rachetant, en tout cas les aider financièrement en les rachetant.
Parce que
c'est assez récent, parce que en fait les abonnés en fait étaient pas suffisamment nombreux à payer, première source d'argent. Plus j'ai d'abonnés, plus je vais avoir de recettes publicitaires. Moins j'ai d'abonnés, moins j'en ai. Donc on avait aussi des recettes publicitaires qui étaient moins importantes qu'aujourd'hui. Et puis on avait une aide de l'État qui existait, qui est présente, qui est de l'ordre entre 5 et 7 millions par grand quotidien dont on parle, mais qui est insuffisante, cette aide-là, pour faire tourner en fait ce type de rédaction. Donc du coup, pendant un certain nombre d'années, il y avait quand même des industriels qui mettaient de l'argent en fait dans ces médias pour apurer les comptes.
Alors justement, tu viens d'en parler, il y a quand même une compensation de l'État qui vient soutenir l'ensemble de la presse française, alors à échelle différente. On a justement le montant là de ces subventions, c'est public évidemment. Alors il s'agit d'aide à la presse pour favoriser le pluralisme dans le paysage médiatique. Par exemple, l'Humanité reçoit 5 millions, ce qui est beaucoup par rapport à son chiffre d'affaires qui est de 18 millions d'euros. Donc c'est un journal qui est très soutenu si on compare par exemple avec Le Figaro. Lui, c'est 7,7 millions d'euros contre un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Alors, en termes d'indépendance, c'est quoi le problème que ça pose, Mehdi, de voir ces quelques milliardaires possédés et donc en mesure de contrôler tous ces journaux?
Alors, même élément, je pense que pour réfléchir à cette question-là, c'est important de sortir des frontières franco-françaises, et notamment pour pas tomber dans les théories complotistes ou bon. Mais ce qu'on remarque en fait dans tous les pays occidentaux, c'est que les grands groupes de presse ont tendance à certains moments à mettre la pression soit sur le personnel politique, soit au moins en fait sur leur propre rédaction. Nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu en France il y a quelques semaines de ça, c'est une rédaction entière, celle du quotidien qui s'appelle Les Échos, qui est un quotidien économique, se mettre en grève parce qu'en fait, le directeur du groupe de journalistes, donc directeur de la rédaction,
Nicolas Barré.
avait été licencié par le propriétaire, qui est lui-même en fait un grand patron.
Bernard Arnault, donc PDG de LVMH.
Tout à fait. Et donc du coup, là, en fait, les journalistes se sont sentis en danger en matière d'indépendance éditoriale, en ayant crainte, en fait, que le patron de ce quotidien-là impose ses vues via un nouveau directeur de la rédaction qui viendrait lui-même imposer ses vues aux différents journalistes. Donc, comment on fait? On choisit des sujets à traiter et du coup, on choisit de ne pas traiter certains sujets. Et puis, quand on choisit de traiter certains sujets, on va les traiter plutôt d'une certaine manière. Voilà. Il faut avoir à l'esprit, en termes d'indépendance, que il est évident que on voit mal la rédaction du Figaro faire une enquête très très critique sur le système Dassault. Même chose pour Libération, sur le système Drahi. Quand ça se fait, puisque de temps en temps, quand même, il y a des journalistes qui tentent de le faire, ça crée beaucoup de tensions au sein des rédactions ou de conflits entre rédactions
Et la
et
direction.
propriétaires. Voilà. On a un autre exemple au-delà de nos frontières, qui est le groupe Murdoch, qui est un géant de la presse. Donc Murdoch, qui à la base est un Australien qui avait de la presse en Australie et qui ensuite est devenu le géant de la presse, soit de tabloïd en Angleterre, soit de la presse conservatrice américaine, et qui lui aussi a tendance à mettre la pression de temps en temps, quand ses intérêts sont en jeu, sur le personnel politique de ces différents pays-là. Donc, plus on a un système médiatique qui est contrôlé par des intérêts privés qui ne représentent pas l'intérêt général, plus on va avoir de risques d'avoir des coups de pression comme ça qui viennent limiter l'indépendance de la presse au sein de ses rédactions.
Mais est-ce qu'il n'existe pas des alternatives justement pour contourner un peu l'idée que ce soit des milliardaires qui possèdent nos journaux?
Alors, il y a deux alternatives possibles. La première, c'est déjà de passer en fait à la presse à financement public. L'inconvénient de ce système-là, c'est que les journalistes n'ont pas d'obligation finalement à essayer d'être innovants ou à essayer d'être performants. Et là, c'est un peu l'exemple Stade 2 pour ceux qui ont mon âge, hein, une quarantaine d'années. Qui se souviennent de l'écart de qualité qu'il y avait, par exemple, entre des chaînes de sport privées comme Canal+, à l'époque où Canal+ était en train de se développer, Et puis les rédactions de France Télévisions de l'époque, d'assez mauvaise qualité. Il y a une autre possibilité pour garantir quand même une forme d'innovation et d'intérêt financier par l'argent, d'être efficace et donc de vendre de l'information de qualité à des abonnés. Ce serait de limiter le pouvoir d'un propriétaire privé au sein d'une rédaction. C'est-à-dire que soit j'ai plus de garanties, par exemple, que la rédaction choisit elle-même le directeur ou la directrice de la rédaction. Ça éviterait les conflits qu'on a vus au sein des Échos.
Alors justement, parce que tu parles de ça, alors au niveau des Échos, ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est qu'il y a plus de pigistes que de journalistes qui travaillent à temps plein dans ce journal-là. Ce qui fait que bah, forcément, les pigistes ne vont pas s'investir pour aller voter. Et du coup, c'est l'actionnaire souvent qui remporte la plus grande part de décision.
Donc, il pourrait, si par exemple on identifie ce type de problème-là, bah, les régler, c'est-à-dire ouais. Régulariser la situation des pigistes plus régulièrement, mais surtout en fait que les propriétaires n'aient aucun pouvoir en fait sur la ligne éditoriale. Mmh. C'est une première possibilité. Ouais. Pour garantir ce pouvoir limité des propriétaires, c'est aussi limiter leur capacité à détenir des médias. Si chaque propriétaire privé n'a la possibilité que de détenir que 5% d'un média, on sait que la pression sera beaucoup moins forte que si on a un pool de propriétaires qui détiennent 75% d'un média. Donc c'est les deux manières en fait de faire évoluer un petit peu la situation qui est pas optimale aujourd'hui.
Bien, merci Mehdi.
Merci à toi Julien.
Et je rappelle que l'émission est disponible en podcast sur le site internet de la radio, marmitefm.fr. On se retrouve très vite pour un nouveau recul immédiat avec de nouveaux sujets. En attendant, bonne journée à toutes et tous sur Marmite FM 88.4.
C'était Recul immédiat sur Marmite FM 88.4.